Et votre petit chat,
il l'a mangé.
Il l'a mangé.
Les gros mangent les petits. C'est l'histoire de la vie.
Ça doit pas être le premier livre sur une histoire du cinéma français.
C'est extraordinaire. Je vous avais parlé, Joël, du premier tome de cette série consacrée au cinéma français. Donc, une histoire du cinéma français chez Leitmotiv, où il y a un livre par décennie. Donc, je vous avais parlé des années 30, ça couvre le parlant au 20e siècle. Il y aura 7 tomes, donc on va jusqu'en 1999, et c'est remarquable.
Montrez-nous l'épaisseur, voir de côté.
Non, c'est quand même, je vais vous dire le nombre de pages, beaucoup, près de 400 pages.
Avec des photos amusantes?
Avec des photographies, on y va année par année. Et les années 40, c'est la guerre et l'après-guerre pour le cinéma français. Ça commence avec La fille du puisatier, un film de Pagnol, qui était le maître des années 30. Et ça va en 1949 jusqu'à Jour de fête de Jacques Tati. Cette merveille absolue de légèreté.
Tout Tati est la légèreté.
Et de finesse et tout. Un film dont je vous avais déjà parlé, qui s'était tourné avec un procédé tout nouveau en couleur. Par bonheur, il y avait une caméra témoin à côté, noir et blanc, parce que la couleur s'est plantée et on a reconstitué la couleur des années plus tard. Et donc, pour chaque année, il y a un film coup de cœur, un gros plan, un portrait, et on apprend toutes sortes de choses. On apprend des choses qui sont, ma foi, des détails qui amusent. Par exemple, Gérard Philippe, grand acteur des années 40-50, mort à 36 ans.
Même au Québec.
Oui.
Un ami de Guy Provost, de Jacques Languirand, d'Edgar.
Et associé à cette voix qui a enregistré notamment Le Petit Prince. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Gérard Philippe. Gérard Philippe, son nom, c'était Philippe avec un P à la fin, pas de E. Et sa mère, qui était superstitieuse, a fait ajouter un E pour que ça fasse 13 lettres. C'est fou quand même. Il y a des gens comme ça qui ont des noms d'artistes, mais lui, c'était vraiment un truc de numérologie. Et il a travaillé notamment avec Michel Simon dans La beauté du diable.
C'est un de ceux que j'ai gardé à la maison, même, je pense, je suis encore en Betamax, je ne sais pas quoi, là, mais La beauté du diable, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de deux comédiens.
Et Simon, comme toujours, on avait parlé de Jouvet quand je vous avais parlé des années 30, disait du mal de son petit camarade, il faisait toujours ça. Dans ce cas-ci, il disait « Bof, Gérard Philippe, est-ce vraiment un acteur? Il soigne beaucoup son profil. » Alors, vous voyez le genre de choses qu'on découvre là-dedans. Mais il y a des dossiers, par exemple, un sur la présence des prostituées. Elles sont très nombreuses dans le cinéma français. Simone Signoret le sera,
dans Madame Rosa.
Sera dans ce rôle-là. Oui, Madame Rosa, à la toute fin. Casque d'or aussi, Dédé d'Anvers, qui est dans les années 40. Mais la partie la plus fascinante, au-delà des films importants comme Les Enfants du Paradis, La Belle et la Bête et tout, qu'on redécouvre, que ça nous donne envie de voir ou revoir, c'est ce qu'ont fait les acteurs français ou les réalisateurs français pendant la Deuxième Guerre. Leur vie sous l'occupation.
Ah, ça, c'est... Qui est c'est Tavernier qui avait fait quelque chose sur ça?
Oui, il a fait...
Sur Clouseau et tous ces gens-là.
Absolument, Clouseau, qui, par exemple, il est cité, d'ailleurs, Tavernier, mais Clouseau, qui a été interdit de filmer pendant un certain temps, mais on en trouve des tas d'autres. Bon, le cas le plus... cocasse presque parce qu'elle en faisait un spectacle, c'est Arletty qui disait, et on n'est pas sûr qu'elle l'ait vraiment dit, mais que son cœur était français et son cul international.
Ah,
et elle s'était tournée vers deux autres femmes qui, comme elle, avaient eu un officier allemand comme amant en disant « On devrait peut-être former un syndicat. » Vous voyez le genre de personnage qu'on trouvait
à l'époque. Coco Chanel, entre autres choses.
Quelques-unes. Hein?
Oui,
mais en fait, ce qu'on découvre là-dedans, parce qu'il y a des dizaines de personnalités dont on fait le portrait sous l'occupation, leurs différentes actions. Et on constate que ce n'est pas si simple. Je ne suis pas sûr que vous ou moi, peut-être vous, mais sûrement pas moi, on aurait toujours été courageux et parfait, d'autant qu'on est là avec des gens qui sont dans le milieu du spectacle, donc qui veulent exercer leur art
dès lors où
ils le font. Est-ce que c'est de la collaboration ou est-ce que c'est de la résistance?
Est-ce que c'est plus être collaborateur de jouer au théâtre le soir que de faire du pain vendu aux Allemands?
C'est cette comparaison avec le boulanger est faite dans le livre. C'est exactement l'exemple qu'on donne. Donc, ma foi, vous auriez pu l'écrire.
Mais c'est un sujet, moi, qui m'a fasciné, passionné, parce qu'on a fait toutes les misères du monde à un homme comme Sacha Guitry, qui avait refusé de faire jouer ses films en Allemagne, qui a sauvé son ami de la Gestapo.
Absolument.
Et après, à cause d'un journaliste du Figaro, on lui a fait toutes les misères du monde.
Et c'est raconté. Alors, notamment, lui a dit, il avait toujours des mots d'esprit, ils auront la France, mais ils n'auront pas la culture française.
Oui.
Sa résistance à lui passait par ça.
Et il avait dit, quand il a été arrêté, oui, la libération, j'ai été le premier prévenu. C'est génial.
Oui, il parlait de ses années d'occupation, au pluriel. Maurice Chevalier est un beau cas aussi, parce que dans le cas de Chevalier, on s'est retrouvé à la fin de la guerre avec un homme qu'on condamnait à mort. Il a fallu Aragon et Prévert pour le sauver. Et puis, on a rappelé à ce moment-là il avait, à vélo, transporté, fait le messager vers les gens de la résistance. Il portait des messages parce qu'il était insoupçonnable. Donc, c'est plus complexe qu'on le pense.
Ah oui, bien sûr. Mais vous avez comme Chanel qui, à la fin de la guerre, c'est De Gaulle et Churchill qui ont sauvé Mme Chanel parce que, évidemment, tout le monde voulait lui tomber dessus parce qu'elle avait vécu avec des Allemands au Ritz pendant l'occupation.
Et les Allemands, parfois, prenaient des photos des gens.
Bien sûr.
Qu'il y avait une photo avec un officier allemand, on était soupçonné de quelque chose. Alors, ils ont résisté comme ils pouvaient. Terminons sur Charles Trenet, à qui on reprochait quelque chose de terrible. On disait qu'il ressemblait à un des frères Marx, Harpo Marx. Donc, les Allemands se méfiaient de lui pour cette raison. On est dans l'absurde.
Ah oui, mais la connerie...
La connerie, ça les a menés où on sait.
N'est-ce pas?
Cela dit, moi, je pense qu'on devrait se laisser en musique. Dans le film « Les portiers de la nuit », Yves Montand a remplacé Jean Gabin. Il devait y avoir Gabin et Dietrich. Ils ont déclaré forfait et puis ils se sont séparés, en fait, puisque ça a été un couple. Dans ce film « Les portiers de la nuit », on entend ce cher Yves Montand.
Voulez-vous que je chante? Non, pas vraiment, là, pour une fois.
Si je chantais seul, j'apprécierais beaucoup. Mais dans votre tête, Joël, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bref, c'est Prévert, c'est Cosma, c'est Les feuilles mortes.
Merci, Michel.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais,
moi qui t'aimais. J'ai pas pu résister parce qu'il faut couper la chanson parce que notre invité a choisi une autre chanson, lui.